la philosophie au risque de sa vie.
Lui avait toujours eu un courage immense de ne jamais céder à la terreur idéologique et à la terreur policière. Quel est le caractère immoral du totalitarisme? C'est qu'il force l'homme à être soit un héros, soit un lâche. Il n'y a pas de demi-mesure. Lui était un héros.
Prénom?
Yann.
Nom?
Patochka.
Sa naissance?
1er juin 1907 en Bohême, dans une famille d'enseignants. Son père est proche du président de la future Tchécoslovaquie, Tomáš Masaryk. La Tchécoslovaquie république de professeurs, disait-on.
Ses études?
Philosophie à l'université Charles de Prague, puis à la Sorbonne, où il rencontre pour la première fois le phénoménologue Husserl, dont il sera ensuite le dernier assistant à Fribourg. Fribourg, où il sera aussi l'auditeur de Heidegger, ses deux grands interlocuteurs.
Une carrière de professeur?
Le mot carrière, tout à fait impropre. Son enseignement, commencé en 1936, est interdit en 1939. Après l'invasion allemande, repris en 1945, il est interrompu en 1948 par le coup de Prague, le coup de force communiste. Réintégré en 1967, il est mis à la retraite en 1969, après l'invasion soviétique. L'essentiel de son enseignement passera par des séminaires semi-clandestins qui se tiennent dans son appartement jusqu'en 1976.
Quelles sont ses œuvres?
Elles sont souvent parues en Allemagne ou en France avant la Tchécoslovaquie. Dans notre pays, elles doivent beaucoup à son infatigable traductrice Erika Abrams. L'Europe après Platon, les essais hérétiques, récemment chez Vrin, les carnets philosophiques.
Il a eu un rôle politique?
Comme Socrate, il accordait à la vie dans la cité un rôle premier. Il est devenu le porte-parole de la charte 77 qui, face à la normalisation imposée par les soviétiques, défendait les droits de l'homme en Tchécoslovaquie.
Et sa mort?
À Prague, le 13 mars 1977, d'une congestion cérébrale, après des interrogatoires poussés et répétés de la police. Le jour de l'enterrement, à l'église, un prêtre agent des services secrets est délégué pour célébrer l'office, et en ville, les fleuristes sont fermés. Ses élèves se rendent immédiatement dans son pauvre deux pièces pour recueillir ses papiers, qui en janvier 1990, après la révolution de velours, formeront les inestimables archives Patochka.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier?
Dans les temps difficiles qui s'annoncent, il sera utile de reconnaître Patochka. Le siècle des guerres n'a pas laissé beaucoup de répit à son pays, la Tchécoslovaquie. Et lui ne conçoit pas la paix comme un repos, ce serait y reproduire les mêmes erreurs qui ont mené au conflit. Il reconnaît ses vertus à la sphère privée, mais descendant en ligne directe de Socrate, il accorde la première importance à l'espace politique qu'il conçoit comme lieu de l'action libre. Liberté, responsabilité, ces deux maîtres mots jusqu'à l'engagement comme porte-parole de la charte 77 qui le mène au sacrifice librement consenti et qui va attirer l'attention sur la situation de son pays et de tous les dissidents. Émilie Tardivel, philosophe, a consacré deux livres à Patochka.
Cette mort met en émoi grande partie quand même de la Tchécoslovaquie et puis aussi l'Europe occidentale. Dès 1977, on a la revue des Dominicains, la revue Istina, hein, qui fait un dossier assez complet sur la charte 77, sur ce que signifie cette charte, sur Patochka lui-même. Hein. Paul Ricoeur va écrire un fameux texte sur Jan Patochka, le philosophe résistant. On va même avoir une chanson. Vous vous souvenez peut-être d'Yves Montand, Casse-tête, en 1978. Cette chanson où Yves Montand dit « Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Je m'appelais comment déjà ? Jan Patochka. » Donc on voit bien l'écho absolument extraordinaire qu'a eu cette mort de Jan Patochka, qu'on peut et qu'on a considéré comme le Socrate contemporain.
Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Je m'appelais Ian Patochka.
Alors on va commencer par un grand mot, phénoménologie. Patochka, c'est un phénoménologue. Alors, petit éclaircissement, lorsqu'un objet, un fait, se présente devant le sujet, il est recommandé à celui-ci de suspendre son regard sur l'objet et aussi, en bonne phénoménologie, son regard sur lui-même, le sujet. Et alors, que constate-t-il ? Que ce qui lui apparaît le précède. Ce qui nous apparaît, l'apparaissant, nous l'appelons le monde. Mais si nous n'avions pas suspendu notre regard, nous aurions aussi bien pu refuser cette donation. Le monde est riche de possibles que le sujet a la liberté de saisir ou pas. Liberté, responsabilité. Et maintenant, l'histoire de la Tchécoslovaquie, que Patochka va voir en phénoménologue. La Tchécoslovaquie existait virtuellement dans l'Europe centrale telle que l'avait constituée l'Empire austro-hongrois. Et un philosophe, le professeur Thomas Masaryk, prend la responsabilité de faire apparaître le pays quand les circonstances le permettent à la fin de la Première Guerre mondiale. Un pays fondé par un philosophe, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples. Jamais Patochka ne s'exilera ni n'abandonnera la langue tchèque qui pour lui doit apporter sa contribution à la pensée européenne. Émilie Tardivel a appris le tchèque pour entrer plus avant dans l'œuvre de Patochka.
Ces trois langues d'études sont vraiment bien sûr le tchèque, sa langue maternelle, le français et l'allemand. Et on retrouve en fait dans les textes qu'il a écrits ces trois langues. Et effectivement, bon, Patochka n'a pas pu beaucoup publier dans sa vie. Déjà, il n'a pas pu beaucoup enseigner, seulement 8 ans. Et puis, il n'a pas pu beaucoup publier. Il a publié avant tout, on lui a permis, durant la période communiste, on lui a permis de publier seulement ce qu'on appelle son grand Aristote en 1964, ses textes sur Comenius qui ne gênaient personne. Et puis, on lui a permis de publier aussi ses traductions de Hegel. Parce qu'il faut savoir, c'est le grand traducteur de Hegel en tchèque. Et donc, en fait, le reste... on l'a à l'état de fragments, de samizdat, etc. Et ce qui est aussi très impressionnant, c'est que quand Patochka parle de Husserl et Heidegger, souvent on peut penser qu'il n'a pas les textes sous les yeux. Il a suivi les cours de Husserl et de Heidegger. Eugène Fink lui envoie un certain nombre de textes, mais je pense qu'il a beaucoup fait de mémoire également. Donc c'est ça qui est très impressionnant. Et souvent, quand on pense que ses références ne sont pas assez précises, c'est peut-être aussi qu'il n'avait pas, comme nous, les documents sous les yeux, les éditions critiques très bien faites que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et dans le rapport qu'il a à la philosophie à travers ces trois langues, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que ses textes les plus audacieux, il les écrit en tchèque. Et ses textes les plus audacieux en phénoménologie. Quand il passe à l'allemand, notamment pour publier les textes qu'il écrit, il passe souvent à l'allemand. Et là, on voit qu'il se met en retrait derrière ses maîtres Husserl et Heidegger. Il agit plus en historien de la philosophie ou de la phénoménologie. Il est beaucoup moins audacieux que dans les textes qu'il écrit en tchèque, que les fragments que nous avons et qui ont été d'abord écrits en tchèque.
Émilie Tardivel cite le nom de Comenius, interdit d'enseignement. Patochka avait travaillé à l'Institut Comenius. Comenius est un grand pédagogue. C'est un des grands noms que le pays tchèque a apporté à l'Europe avec l'astronome Kepler, le réformateur Jean Hus et plus tard Masaryk. C'est à l'Institut Masaryk qu'un moment le régime communiste assignera Patochka au rôle d'archiviste. Alors, ce professeur Masaryk, il a fait de la Tchécoslovaquie, du moins il le voulait, un état philosophique. C'est un pays qui n'a pas de fleuve débouchant sur le grand large, qui est enclavé, mais qui est accueillant aux étrangers. Xénophile, disait Patochka. Le président Masaryk a vieilli peu à peu, retiré dans son château du Hradčín, au-dessus de Prague. Le jour, il fermait les yeux sur les failles qui s'élargissaient dans le pays. Le chômage qui progressait, les minorités qui protestaient. Et la nuit, à partir de 1933, le nazisme établi en Allemagne l'empêchait de dormir. Un texte de Patochka sur ce moment-là.
Le 28 octobre 1933. Désireux de manifester son opposition à Hitler, en même temps que sa confiance dans sa propre armée, le vieux monsieur du château avait exigé de monter à cheval pour passer en revue les troupes alignées sur la place Saint-Venceslas face à la statue équestre du roi de Bohême. Les fers de la monture avaient été recouverts de caoutchouc pour éviter tout faux pas. N'empêche que l'entourage officiel tremblait. Les applaudissements de la foule risquaient d'effaroucher la bête. La moindre dérobade aurait suffi à jeter bas le cavalier, fracassant ainsi au sol l'image de la nation. Tableau presque surréaliste. Tandis que l'héroïsme et la confiance dans l'esprit d'un peuple s'expriment dans cette symbolique naïve, il y a 15 ans déjà qu'en dépit de traités, les officiers de la Luftwaffe et de la Wehrmacht se formaient aux tactiques de la guerre de l'air et des chars blindés dans les écoles militaires de l'Union soviétique.
Mazari, qui transmettra le pouvoir en 1935, mourra à temps en 1937 pour ne pas voir Munich, le démembrement de la Tchécoslovaquie, le protectorat nazi de Bohême-Moravie et après la défaite allemande, le passage sous tutelle soviétique qui devient effective en 1947-1948. Son fils, héritier et conseiller Jan Mazari, qui était alors nominalement le ministre des Affaires étrangères à Prague. En mars 1948, les communistes raflent tout le pouvoir emmené par le leader stalinien Gottwald. Mazarik, Jan, le fils, n'est plus ministre que nominalement et il va se suicider.
Aujourd'hui, Jean Mazarik est mort. En pleine nuit, il s'est jeté du quatrième étage de son palais. On a épilogué sur les raisons de son geste, mais la foule de Prague qui le pleure, pleure en lui l'homme qui fut depuis 30 ans une part de son indépendance. Une foule immense a apporté au fils du libérateur de la terre tchèque un dernier hommage sensible et douloureux. Hommage qui, dépassant la pompe des funérailles nationales ordonnées par le gouvernement, s'adressait aux démocrates qu'admirait le monde entier. Par les rues de Prague encombrées d'hommes et de femmes en larmes, le cortège funèbre, après une station au Ratchin, palais des vieux rois de Bohême, a gagné le cimetière, où en présence de M. Gottwald, le grand mort doit reposer côte à côte avec son père, près de qui il va se recueillir une dernière fois, quelques heures avant sa fin. Mazarik est mort, et l'ombre de sa mort trouble la conscience de tous les hommes épris de liberté.
Monsieur Lebrun, la guerre a accompagné la vie de Patočka, mais aspire-t-il pour autant à n'importe quelle paix ?
Toutes les catastrophes viennent de la Première Guerre mondiale que Patočka considère comme une rupture qu'il ne faut cesser d'interroger. Le siècle, comme l'œuvre de Dante, a commencé par l'enfer. Comment l'expérience du front a-t-elle pu associer les ennemis dans une mêlée qui en faisait un seul corps porté à incandescence ? Le monde capable d'engendrer pareil phénomène peut-il se reproduire ? Et pourtant les forces nocturnes emploient les mêmes voies pour venir de nouveau au jour. Notre deuxième interlocuteur, ce sera le philosophe Marc Crépon qui interroge le polémos, l'esprit de guerre.
Patočka ne s'est jamais imaginé à aucun moment vivre dans un monde en paix. Patočka explique les guerres du XXe siècle comme étant essentiellement motivées par la volonté de domination et de puissance, laquelle volonté de domination et de puissance consiste essentiellement dans l'appropriation des ressources énergétiques, la mainmise sur toutes les ressources qui permettent d'augmenter la puissance. Et dans le fond, c'est cette appropriation qui crée les conflits, qui à un moment ne se résout que dans le conflit, mais dès lors que le conflit s'arrête, que la paix vient, cette rage d'appropriation civilisationnelle, cette rage de domination, cette course à la puissance, comme il dit, ne s'arrête pas pour autant. Donc, il y a quelque chose de monstrueux dans les illusions du jour, dans la mesure où ces illusions du jour sont toujours disposées à conduire les hommes au sacrifice quand il sera nécessaire, c'est-à-dire à une nouvelle guerre. Donc la guerre, en réalité, continue en dépit des illusions de la paix. L'intérêt de ce qu'il appelle les forces du jour est de nous démobiliser, en quelque sorte, de nous enliser dans une quotidienneté qui ne nous montre pas, qui ne nous permet pas de comprendre que, en réalité, la guerre continue. Donc pourquoi est-ce que Patochka accorde une telle importance et à la nuit et au polémos? C'est précisément pour nous éviter de nous endormir dans cette
illusion. Le front n'a pas été seulement cette nappe ardente où se neutralisaient les énergies contraires accumulées dans les masses ennemies. Ceux qui sont passés par là ont subi comme un choc électrique. Ils en sont restés ébranlés. La solidarité des ébranlés.
La solidarité des ébranlés, c'est la solidarité de ceux qui n'acceptent pas les illusions de la paix. C'est de ceux qui n'acceptent pas la démobilisation. La solidarité des ébranlés, c'est la solidarité de ceux qui n'acceptent pas que les vies sacrifiées pendant la guerre ne l'aient été que pour permettre, dans le fond, que les choses continuent après la guerre comme elles avaient commencé avant et comme elles ont conduit à la guerre. La solidarité des ébranlés, c'est celle de tous ceux qui n'acceptent pas l'enfermement de l'existence dans les compromissions du jour avec toutes les violences qui continuent malgré tout. Si je devais le traduire dans des termes plus contemporains, je dirais que très souvent la paix, et c'est ça les illusions du jour, sont faites de plein de consentements meurtriers. C'est-à-dire que nous continuons à accepter la violence, à préférer ne pas la voir, à nous fermer les yeux, à nous boucher les oreilles. La solidarité des ébranlés, c'est ceux qui ne l'acceptent pas. On ne se laisse pas enfermer dans l'idée que les choses vont bien comme elles sont. Voilà, on est satisfait de son existence, on est satisfait des injustices, on s'accommode de la misère. Donc c'est une solidarité, c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai toujours lu, qui maintient l'exigence d'un refus inconditionnel de la violence.
Marc Répond a écrit sur ce thème un livre chez Odile Jacob. Ceux qui ont subi le choc, les ébranlés, sont à même de comprendre ce dont il y va dans la vie et la mort, et par conséquent, dans l'histoire.
C'est Hannah Arendt qui a remarqué qu'il peut arriver que la vérité ait aussi de l'intérêt pour quelqu'un. Cet intérêt est pur quand les intéressés sont les opprimés, les offensés, les humiliés, les morts, quand il a reçu le baptême du sang qui engage. Non pas un esprit de vengeance, mais une volonté de vérité. Cela suppose plusieurs dispositions presque mystiques. Par exemple, ce dont nous avons tous le sentiment, bien qu'obscur et en quelque sorte irréel, que ce sont les morts, les humiliés, les vaincus qui ont raison, et que les puissants, les souverains, les maîtres ne seront pas, mais sont d'ores et déjà condamnés. Et que ces morts non seulement ne devraient pas nous être indifférents, mais qu'effectivement ils ne nous le sont pas. Que nous sommes là pour prendre la relève de ce qu'ils sont. Que, de cette manière, ils sont nous.
Thank you. Intelligence, service. France Inter.
1967 maintenant, parenthèse, rebond, la société tchécoslovaque est transformée par le printemps de Prague. Les réformateurs du Parti communiste en conquièrent la direction. On sort d'une dictature à tête de bœuf et on entre dans le socialisme à visage humain. Plus de liberté dans la sphère publique et dans la sphère privée, davantage de sincérité. Patochka est heureux de retrouver un enseignement. Jusqu'à l'invasion du pays décidée par Moscou, qui ne peut tolérer pareille révolution à ses portes. Août 1968, Alex Decote de la radio suisse romande essaye de joindre le Radio Prague International démocratique qui vit ses dernières heures.
Oui, au téléphone, Michel Neubert.
Écoutez, je vous téléphone de Genève, nous n'avons que 3 minutes.
Entendez-vous la Radio Prague? Pouvez-vous la monitorer?
Oui, nous monitorons Radio Prague. Allô?
Centrale téléphonique. Les lignes internationales est occupée depuis 3 heures de cet après-midi.
Oui, mais pensez-vous que sur le téléphone automatique, il puisse y avoir une écoute des autorités occupantes?
Certainement.
Et vous pensez que nous sommes écoutés en ce moment?
Oui.
Écoutez, il ne faut pas que vous preniez de risques. Est-ce que vous préférez que je raccroche?
Non.
Que se passe-t-il à Prague en ce moment?
Bien, en ce moment, je voulais justement vous dire que la soirée était très mouvementée parce que la radio avait émis un appel prévenant la population que cette nuit-ci, on procédera à des arrestations en grand nombre, surtout dans la capitale. Et on a demandé pour cette raison à la population de retirer les indications des rues, les numéros des maisons, les listes des locataires dans les maisons et les cartes de visite. Et cet appel a été lancé vers 5 heures de cet après-midi. Et à 7 heures, quelqu'un qui ne connaît plus la ville ne pourrait plus du tout circuler. Parce qu'on rencontrait des gens avec des échelles, des pots de couleur, des jeunes, des vieux, tout le monde effaçait toutes les indications des rues, des numéros. Donc, Prague est une ville anonyme. Et les tracts, vraiment, c'est sensationnel à voir, les maisons sont entièrement couvertes de traces, de pancartes, de dessins, d'inscriptions, de tout, qui disparaissent la nuit et dans la journée réapparaissent.
Écoutez, excusez-moi, monsieur, les 3 minutes sont passées. Vous pouvez dire au revoir.
Oui, au revoir et j'espère à bientôt.
Nous voulons savoir à Prague, vous entendez les 700 mètres?
Oui.
Il y a un appel lancé aux amateurs des postes émetteurs. Troublez les 210 mètres, c'est le poste de l'Allemagne de l'Est, Voltava.
Bien, nous devons nous séparer, j'espère à demain.
À demain.
Au revoir.
Au revoir.
J'espère à demain. Patochka, à ce moment précis, participe au congrès international de philosophie à Vienne. Il refuse de saluer ses confrères soviétiques et il pose la question « Comment philosopher dans un pays où la liberté va être confisquée ?» Demain peut-être, enfin demain n'est pas prêt de venir, Moscou impose au pays une chape de plomb qu'elle nomme « normalisation ». Beaucoup d'intellectuels sont renvoyés à des tâches manuelles, gardiens d'immeubles, chauffagistes, pour rééducation. Et Patochka, mis à la retraite de l'université, continue néanmoins de tenir chez lui un séminaire très surveillé auquel participait Jan Vladislas, son témoignage.
Et son appartement, 2 pièces dans un sous-sol, vous savez, c'était assez pauvre, il faut le dire. Et dans ces 2 pièces, il y avait une vingtaine, trentaine de personnes. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais assez de chaises, etc. Vous savez. Mais il y a aussi une joie d'assister à un séminaire comme ça. Vous savez.
C'était donc toléré par la police.
Oh, écoutez, toléré. Et dans les années 70, ce n'était pas encore le problème. Mais après la publication de la charte 77, vous savez, ça tout a changé. Avant, évidemment, il y a eu des difficultés, des petits problèmes, et ce n'était pas interdit. il y avait des informateurs parmi les parmi ceux qui assistaient à ces séminaires, mais ils le savaient. Bon, ce n'était pas important. Ils vivaient tout près de nous, on était voisins. Ils descendaient quelquefois pour téléphoner, parce que c'était déjà après la charte 77, son téléphone était coupé, ils venaient souvent chez nous pour téléphoner. J'ai dit, écoutez, professeur, vous restez avec nous pour manger un peu. Oui, il restait 6 heures, 8 heures, pour bavarder et pour reposer, parce que vraiment, il en avait besoin. Et c'est comme ça, vous savez, un homme qui était tout proche, il n'y avait pas de distance, vous savez. Tous ses disciples étaient ses amis, ses jeunes amis. C'est très important. C'est un homme que, vous savez, que je ne oublierai jamais, jamais.
On a peut-être aujourd'hui un peu du mal à s'imaginer cette ambiance qui devait être absolument extraordinaire, parce que, voilà, c'est une ambiance clandestine. On savait qu'on faisait de la philosophie au péril de sa vie. Et donc, à partir du moment où on sait qu'on fait de la philosophie au péril de sa vie, la donne existentielle dans la réflexion qu'on mène est beaucoup plus forte. On voit bien qu'ici, si vous voulez, on n'est plus dans la spécialisation philosophique où il faudrait séparer l'histoire de la philosophie, la phénoménologie, la philosophie de l'histoire. On voit bien qu'on est dans une réflexion global, si vous voulez, parfois sans doute à bâton rompu avec les étudiants qui sont là pour essayer, à partir de la philosophie, vraiment de comprendre ce qu'ils vivent.
Le séminaire peut-être le plus fameux, c'est celui de 1973, qui prendra le titre de « Platon et l'Europe ». L'Europe étant caractérisée, selon Patochka, par le soin de l'âme. Patochka est très fidèle à l'héritage hellénique. Il insiste sur ce qu'ont inventé les Grecs en matière politique, qu'ensuite les Romains appliqueront en matière juridique. Il faudra lire Lévinas pour insister aussi sur l'héritage hébreu. D'autres parleront de l'héritage chrétien, bien sûr, de l'héritage musulman aussi. Mais l'important, est-ce seulement de peser au trébuchet les apports historiques des uns et des autres ? Alors de même qu'on a dit que l'Europe était traduction, elle est, dit Marc Crépon, échange.
La responsabilité, c'est une responsabilité de chaque culture en vue de quelque chose d'universel, c'est-à-dire en vue d'une appropriation par tous. C'est-à-dire, Patochka déplorait, par exemple, que les autres nations européennes ne s'approprient pas suffisamment la culture tchèque, et il redoutait que la culture tchèque, repliée sur elle-même, ne s'approprie pas suffisamment aussi les autres cultures européennes. Et dans sa méditation sur l'Europe, cela va même au-delà, puisqu'à un moment, il parle de la nécessité, et on est encore que dans le début des années 1970, de la nécessité pour l'Europe de s'ouvrir aux autres cultures du monde. Aucune culture, et encore plus aucune civilisation, et Patochka se méfie énormément du concept de civilisation, aucune civilisation ne peut s'estimer détenir le privilège d'une mission universelle. C'est-à-dire que, en d'autres termes, la construction de l'universel se fait par la responsabilité que chaque culture exerce vis-à-vis de toutes les autres.
Oui, mais néanmoins, il dit qu'il y a une part d'universalité extrêmement forte dans l'origine de la culture européenne.
Oui, mais
la Grèce, Rome.
Oui, mais dont elle n'est pas la seule détentrice. C'est ça sa pensée de l'Europe. C'est que l'universel n'est pas exclusivement détenu par l'Europe.
Universel, ça mène à la désappropriation géographique. Je m'explique. L'Europe n'est pas un espace avec des frontières, des institutions, qui voudraient s'étendre. La transformation de sa vocation universelle en domination, c'est une perversion, Émilie Tardivelle.
Pour Patochka, il est très clair qu'à travers le séminaire de Platon et l'Europe, ce thème du soin de l'âme, ce projet, cet idéal d'une vie dans la vérité et la justice, c'est ce qui fait l'unité de l'Europe.
L'unité, elle n'est pas géographique, elle n'est pas institutionnelle.
Alors, elle n'est pas géographique, elle n'est pas institutionnelle, elle est d'abord spirituelle, c'est évident, pour Patochka. En même temps, voilà, Patočka ne s'exprime jamais sur les frontières de l'Europe. Il a quand même conscience, quand même, que l'Europe, c'est le lieu d'où a émergé, enfin, des idées, des normes qui ont une dimension d'universalité, mais que cette universalité, elle a pu également prendre la forme de la domination dans son extension. Hein. Cet universalisme n'est pas un universalisme qui est là pour éradiquer, pour supprimer, pour uniformiser les modes de vie et les différentes histoires nationales. Comment ces différentes histoires nationales ont pu contribuer à l'idéal européen.
Mais vous dites, il est européocentré, mais il n'est pas européocentriste.
Oui, c'est vrai, parce que il a conscience que l'Europe s'est suicidée au XXe siècle.
Dans ces années 1970, où Patočka tient séminaire semi-clandestin, les démocraties occidentales s'accommodent aisément du partage de l'Europe. D'un côté les communistes, de l'autre les capitalistes. Quand le leader soviétique Brejnev vient en visite officielle à Paris, le ministre de l'Intérieur expédie en province les intellectuels dissidents de l'Est qui ont trouvé un refuge fragile dans notre capitale. En revanche, les milieux intellectuels créent et multiplient des échanges, transferts de livres, de manuscrits, visites de soutien. L'association Jean Hus, du nom du grand réformateur tchèque, multiplie ainsi les déplacements. Elle est animée par l'helléniste Jean-Pierre Vernant et le philosophe Jacques Derrida, à qui d'ailleurs il va arriver une mésaventure au moment de rentrer en France.
J'ai été, soit dit brièvement, suivi et surveillé nuit et jour, pas à pas, jusqu'au moment où, à mon retour, donc à l'aéroport, un et plusieurs douaniers ont fait semblant de découvrir dans ma valise quatre petits sachets qu'ils ont dit être de la drogue qui avait été visiblement disposée probablement à l'hôtel, peut-être aussi à l'aéroport entre diverses allées et venues des uns et des autres, dans la doublure intérieure de la dite valise. Après quoi, j'ai donc été arrêté, conduit au commissariat le plus proche, inculpé après un interrogatoire de 6 à 7 heures, et vers minuit, 1 heure du matin, j'ai donc été emprisonné. Et je dois dire, brutalement, emprisonné.
Derrida sera libéré rapidement. Et c'est dans le train de son retour que, soulagé, il s'est exprimé devant les micros de la radio.
Les deux, et Patočka et Derrida, sur la fin de leur vie, en fait, hein, dans les 10, 15 années, déploient une réflexion considérable sur la responsabilité. Donc ce sont deux des grands penseurs de la responsabilité. Et quand Derrida commente longuement Patočka dans un livre qui s'appelle « Donner la mort », il retrouve Patočka sur la question de la responsabilité. Ce sont les années aussi dans lesquelles Derrida, mais comme Habermas en Allemagne aussi, s'interroge énormément sur l'Europe, l'héritage de l'Europe. Et ça aussi, c'est une la responsabilité de cet héritage. Et ça aussi, c'est évidemment un lien très fort entre l'un et l'autre, la question de la responsabilité. Et puis, quand même, dans les liés d'ailleurs à cette question de la responsabilité, dans le fond, ce qui a préoccupé Derrida pendant les 15 dernières années de sa vie, c'est de d'esquisser les linéaments de ce qu'il appelait une éthique hyperbolique, une éthique radicale, une éthique excessive, une éthique qui, en quelque sorte, c'est ça que veut dire hyperbolique, c'est ça que veut dire radical et excessif, se situe au sommet. Et c'est exactement ce que Patočka nous invite à penser avec le souci de l'âme. Donc il y a, pour l'un et pour l'autre, le souci d'une éthique radicale. Et une éthique radicale, ça veut dire une éthique qui ne se perde pas dans la compromission des morales ordinaires ou des catéchismes moraux avec toutes les violences dont elles s'accommodent.
France Inter. Intelligence, service.
Monsieur Lebrun, en 1975, un signal se faisait entendre depuis Helsinki, où une conférence internationale se terminait par un texte prometteur. La fin de la guerre froide s'annonçait-elle? Avec quelles conséquences pour la Tchécoslovaquie?
Oui, un verrou se desserrait à Helsinki. Les deux camps, pro-soviétique et pro-occidental, parvenaient à signer un texte qui promettait une détente. Les occidentaux entérinaient les frontières, les zones d'influence telles que Moscou les avait peu à peu établies, mais en échange, le titre 3 de l'accord laissait espérer pour les pays communistes un meilleur accès à l'information et enfin des échanges. Les intellectuels conséquents de Tchécoslovaquie en déduisent que le moment est venu de promouvoir une charte qui tiennent compte des modifications introduites dans le droit de leur pays par la ratification d'Helsinki. Le droit, rien que le droit, c'est ce que réclame la Charte 77.
Que dit la Charte 77 ?
Se plaçant sous le signe du droit, les signataires de la Charte 77 constatent que leurs libertés fondamentales sont quotidiennement et systématiquement violées par le gouvernement. Ils en recherchent les causes et expliquent, pour terminer, les motifs qui les conduisent à rendre public ce texte. Sous le signe du droit.
Dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les États participants agissent conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils s'acquittent également de leurs obligations, telles qu'elles sont énoncées dans les déclarations et accords internationaux dans ce domaine, y compris, entre autres, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme par lesquels ils peuvent être liés.
On ne peut pas imaginer que le destin des peuples est enfermé dans les limites d'une nation qui déciderait toute seule. Ce qui importe, c'est pas seulement la paix entre les nations, c'est bien sûr la paix entre les nations, mais c'est aussi toutes les règles de droit dont elles arrivent à se doter communément. Donc l'idée qui est dans le fond que chaque nation est une vocation qui dépasse son destin propre, c'est évidemment tout à fait fondamental. Dans le fond, ce que dit la Charte 77, c'est si le gouvernement tchèque est signataire de ces engagements qui ne l'engagent pas elle seule, mais qui l'engagent dans le concert des nations, alors elle ne peut décider elle-même souverainement de la façon dont elle les respecte ou elle ne les respecte pas. Donc elle s'engage à la fois vis-à-vis des Tchèques, mais vis-à-vis de la communauté internationale.
Oui, mais
et
enfin,
c'est vrai que nos engagements internationaux doivent primer sur des règles nationales qu'on voudrait édicter et qui viendraient à les contredire.
La Tchécoslovaquie est alors dirigée par le président communiste, Gustav Husák, qui a connu la prison sous le stalinisme, qui a recommandé la modération pendant le printemps de Prague, puis a commandé à la normalisation sous les ordres de Moscou. Alors Moscou lui fait signer les accords d'Helsinki, mais lui, son parcours, c'est toujours davantage de répression. Il a tendance à s'affoler, il réunit en hâte au Théâtre National un grand groupe d'intellectuels et d'artistes, ils vont être plus nombreux que ceux de la Charte 77, a signé une anti-charte qui affirme que le régime présente toutes les vertus. Et Husák choisit comme cible les trois porte-paroles de la Charte, l'ancien ministre Jiří Hájek, le dramaturge et futur président Václav Havel et Jan Patočka. Ceci, c'est une chanson d'Yves Montand, écrite par GB. À l'époque, on commençait à faire le rapprochement entre les ouvriers immigrés qu'on pouvait frapper rue de l'Ouest à Paris, les bébés phoques sur la banquise et le philosophe tchèque.
Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica Yang Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noir. Je m'appelais Yann Patochka, maintenant, ça me revient.
Les trois porte-paroles de la charte 77 à Prague sont serrées de plus en plus près. Jiří Hájek, qui va être mis en résidence surveillée, Václav Havel, qui va être emprisonné. Yann Patochka, dont voici le seul enregistrement en français que nous puissions vous présenter.
J'ai été interrogé six fois, une fois pendant 10 heures de suite. Il y a 4 personnes qui, depuis plus d'un mois, sont en prison sans qu'on sache au concret pourquoi. 3 d'elles sont des signataires de la charte, la quatrième ne l'est pas. Mais on l'a mise en relation avec les trois autres d'une manière qui nous paraît arbitraire. Je voulais souligner surtout le cas de Václav Havel, le dramaturge, qui est bien connu dans le monde entier et qui, comme nous entendons, doit être inculpé d'espionnage ou des choses de ce genre.
Et le 13 mars 1977, après de nouveaux interrogatoires musclés.
Le dissident tchécoslovaque Patochka, porte-parole de la charte 77, est mort ce matin, nous l'avons appris il y a quelques minutes à peine par l'agence France Presse qui nous a envoyé un télégramme. Et nous avons précisément en direct de Prague le correspondant de l'agence France Presse, Philippe de Bucher. Vous nous entendez ?
Oui, très bien.
Alors, à votre avis, comment vont réagir ses compagnons, les autres dissidents ?
Écoutez, c'est pour l'instant un peu difficile à savoir parce que les signataires de la charte 77 sont maintenant privés de leurs trois porte-parole. Le professeur Patochka vient de mourir, vous l'avez dit. Quant au dramaturge Václav Havel, il est actuellement en prison depuis le 14 janvier et on ne peut avoir aucun contact avec lui, bien sûr. Enfin, le troisième porte-parole, l'ancien ministre des Affaires étrangères, le monsieur Jiří Hájek, est pratiquement en résidence surveillée. Des policiers sont en faction devant son domicile jour et nuit et interdisent aux journalistes de l'approcher.
L'action publique de Yann Patochka a vérifié sa vie de philosophe. Il a poussé le principe de responsabilité personnelle jusqu'au sacrifice. Alors, pas le sacrifice du soldat qui donne sa vie pour son pays, qui l'a protégé jusque-là. C'est un sacrifice d'échange, au fond. Un sacrifice quantifiable dans notre société technique. Non, un sacrifice qu'on pourrait rapprocher peut-être de celui des dissidents russes contemporains, Solzhenitsyn, Sakharov.
Pour Patochka, le sacrifice du dissident, le sacrifice donc en tant que tel, ne peut pas être placé dans le cadre d'un échange. C'est un nom qui est adressé à un pouvoir qui contrevient, en l'occurrence, aux droits fondamentaux de l'homme.
Donc c'est un appel à la vie dans la vérité. Et cette vie dans la vérité, c'est l'un des grands thèmes de Patochka, puisque c'est l'une des dimensions du souci de l'âme. Le souci de l'âme, c'est la recherche éthique et politique d'une vie dans la vérité.
Comment une société répressive peut-elle se soustraire au sentiment moral ? Elle devient inévitablement dépressive. Et la devise de la Tchécoslovaquie de l'époque de Masaryk et de Patochka peut servir de réponse. La vérité prévaudra. Remerciements à Émilie Tardivelle. Le principe Liberté, c'est un de ses livres sur Patochka aux éditions Vrin, qui publie aussi les carnets philosophiques du philosophe dans la traduction d'Erika Abrams. Merci à Marc Crépon. L'un de ses livres, L'épreuve de la haine, le refus de la violence, aux éditions Odile Jacob. Les lectures, Grégoire Roqueplot. À la technique, à la maison de la radio et de la musique, Pierre-Yves Derolin. Et à l'extérieur, Yves Lehors. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation, Audrey Ripouille.